Imagination, une série d'entretiens proposés par Alain Prochian, neurobiologiste, professeur au Collège de France.
Nous arrivons à la sixième discussion que j'ai le plaisir d'avoir avec différents collègues, soit du Collège de France, soit des artistes qui ne sont pas professeurs au Collège. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir Claudine Tiercelin, qui est professeure du Collège de France et titulaire de la chaire Métaphysique et Philosophie de la Connaissance. Elle est aussi membre de l'Institut Jean Nicot, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'Académie européenne. Donc beaucoup de médailles, chère Claudine Tiercelin. Vos livres sont connus, je pense que Le doute en question, Parade pragmatiste ou défi sceptique, ou encore Le ciment des choses, Petit traité de métaphysique scientifique réaliste. Ça m'amuse beaucoup. Donc nous allons avoir l'occasion de discuter autour du thème imagination comme peut-être trait d'union ou trait de désunion entre l'art et la science. Chère Claudine Tiercelin, je suis donc ravi de vous accueillir aujourd'hui. Comme vous le savez, je ne suis pas philosophe, donc j'aurais un peu du mal à vous renvoyer la balle, mais si j'avais une position philosophique, elle ne serait pas tout à fait la même que la vôtre, parce que je viens d'une pratique scientifique directe, donc peut-être un peu naïve. Et donc je suis très intéressé par la façon dont vous pensez le rôle de l'imagination dans la découverte scientifique. C'est-à-dire que à quel moment on quitte d'une certaine façon la logique pure qui est nécessaire à un moment, de toute façon, dans la construction de théorèmes ou de théories, et à quel moment on quitte cette logique pure pour prendre le risque de l'imagination. Et quel rôle vous voyez à ce risque de l'imagination dans la découverte scientifique? Est-ce que c'est le risque de l'ignorance? Est-ce que c'est le sujet qui, tout d'un coup, se met à s'exprimer à travers une prise de risque? Est-ce qu'il faut l'éliminer? Est-ce qu'il est nécessaire?
En ce qui concerne l'imagination, comme vous le dites fort bien, c'est vrai que souvent on présente l'imagination comme étant un risque relativement à ce que pourrait être la scientificité rigoureuse de la démarche scientifique. Mais je crois qu'il y a là, au fond, plusieurs, peut-être, malentendus qu'il faut dissiper. D'abord, peut-être serait-il bon de dire que ce qui explique, au fond, qu'on y voit un risque, c'est que très souvent, l'imagination est entendue, comme elle l'a été très longtemps classiquement, comme quelque chose qui a trait à la passivité de l'esprit et comme étant lié précisément à la présence d'images, de copies, de ressemblances avec la réalité, et donc entaché par ce biais même classiquement d'erreur. Imagination, maîtresse d'erreur et de fausseté, d'autant plus fourbe qu'elle n'est pas toujours, dit l'autre, mais quand même, elle est quand même souvent fourbe. Et pourquoi est-elle pensée comme fourbe? Parce que on l'associe à l'idée qu'elle ne nous donne que des images des choses. Or, une image, c'est nécessairement quelque chose qui est en deçà de la réalité. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi, dans la tradition philosophique classique, très souvent, l'imagination liée à la présence, au fond, d'images, lesquelles étaient pensées non seulement sur le modèle donc de la copie, de la ressemblance, mais comme ayant, au fond, un lien avec la perception, notamment dans la tradition empiriste, c'était tout à fait le cas, évidemment, n'était pas quelque chose qui permettait d'accéder, au fond, à la quintessence de la pensée. On voit très bien comment Descartes dit les idées, quand elles sont comme des images des choses, c'est quand même évidemment quelque chose qui compte, mais ça n'est jamais aussi bien que lorsqu'on a une idée qui relève simplement de ce que l'on peut concevoir, d'où la distinction qu'il fait entre ce que l'on imagine et ce que l'on conçoit. On peut seulement concevoir un kyliogone, l'imaginer non, parce que l'imagination, elle est toujours liée à la perception et à quelque chose donc qui nous oblige à avoir une sorte de présence. Bon, Chez les empiristes, évidemment, c'est lié aussi à toute l'idée que vous trouvez notamment chez David Hume, selon laquelle toutes nos idées, comme elles viennent, au fond, des impressions sensibles, l'imagination n'est jamais qu'un degré un petit peu supérieur, au fond, de vivacité, éventuellement, dans les idées. Mais il n'y a pas de grande différence là-dedans. D'où, au fond, pendant très longtemps, l'impression qu'on avait que l'imagination était plutôt du côté de la passivité et de ce que Sartre aura appelé après aussi une certaine immanence. Bon. Mais justement, bon, déjà, on voit comment les philosophes, vous reprenez ce que Kant dit du schème. Le schème, c'est ce qui doit permettre de faire, au fond, le raccord entre la sensibilité et le concept. Et le schématisme, qui est rendu possible par le jeu de l'imagination, le jeu libre des facultés, c'est ce qui doit essayer de faire monter comme il faut la sauce. Bon, mais Kant reste assez quand même circonspect là-dessus. Voilà, donc pourquoi est-ce que, grosso modo, on peut concevoir dans la démarche scientifique qu'il y a un risque de l'imagination? C'est essentiellement pour cela, vous voyez. Mais, alors, ce risque, une fois qu'on a expliqué d'où il peut venir, cette idée d'un risque, est-ce qu'il est justifié? Vous avez dit dans votre question une deuxième chose importante. Vous avez dit, au fond, lorsque l'on quitte la logique pure et que l'on introduit l'imagination, est-ce que ça n'est pas là le risque? Eh bien, la première chose qu'il faudrait dire, c'est est-ce que véritablement, même dans la logique pure, on ne fait pas appel à l'imagination? Il y a, par exemple, un philosophe qui était en même temps un grand savant et un grand logicien, qui est un des fondateurs de la logique contemporaine, qui était le philosophe et logicien américain Charles Peirce, qui disait « Mais dans la déduction la plus élémentaire, je fais intervenir des images. Parce que lorsque je fais une déduction, eh bien, je construis une figure, ce qu'il appelait une icône, qui m'aide à penser la façon dont je passe d'une prémisse à la conclusion. » Bon, c'est d'ailleurs ce que certains psychologues ont repris comme idée en parlant de la possibilité de construire des modèles mentaux, y compris même dans le raisonnement logique, mathématique premier. Vous voyez, d'ailleurs, les mathématiciens le savent, les mathématiques, bon, c'est quand même une démarche qui vous fait éventuellement simplement déduire des corollaires, mais qui peut introduire aussi des étapes supplémentaires. Vous faites des pas théoriques, hein, dans des raisonnements dits théorématiques, où on voit très bien comment se fait l'introduction précisément des images qui sont nécessaires pour passer à une sorte d'inventivité dans le raisonnement lui-même. Donc même au niveau de la logique, on peut dire déjà qu'on voit très bien. Donc il n'y a pas à avoir peur, même. Il n'y a pas de logique pure, en un sens, si vous prenez en tout cas le paradigme même de la logique comme étant, au fond, le raisonnement déductif. Alors je dirais, en ce qui concerne la démarche dans les sciences de la nature, cette fois, je pense que c'est à ça que vous faisiez aussi allusion, évidemment, on voit très bien comment l'imagination peut jouer un rôle et avoir quelque chose de risqué, notamment dans la phase de découverte de l'hypothèse, parce que hypothèses non fingo, donc si l'homme de science a besoin de recourir à des hypothèses, à faire donc un exercice d'imagination dans l'élaboration même de son cadre de réflexion, dans ce qu'on a appelé la fameuse question de la logique de la découverte, il y a des chances pour qu'il manque peut-être de la rigueur suffisante. Et vous saviez que classiquement, on a dit que justement, bon, découvrir quelque chose dans les sciences est une chose, justifier c'est une autre. Donc il y a toute une querelle, notamment au XXe siècle, sur justement la question de savoir si on pouvait introduire un petit peu plus de rigueur tout en s'appuyant sur les hypothèses, et donc bien quelque chose qui relève de l'imagination, n'est-ce pas, au niveau même de l'engendrement de l'hypothèse. Alors là, justement, il y a des travaux qui ont repris aujourd'hui beaucoup de lustres. Et là encore, je vais être obligée de rappeler Peirce, parce que c'est lui qui le premier a montré comment, dans le raisonnement que vous introduisez pour essayer de donner un crédit à l'hypothèse que vous lancez, vous êtes obligé de faire appel à ce qu'il appelle une procédure abductive. Et cette abduction, c'est quelque chose comme un instinct, illume naturale, donc qui relève bien de quelque chose comme une forme, si vous voulez, d'expérience immédiate, et qui en même temps a déjà une sorte de forme inférentielle. Donc, qui a introduit déjà une forme judicative, laquelle peut ensuite, évidemment, s'intégrer donc dans un jugement auquel vous pourrez dire est-ce que ça colle sur le plan de la déduction, comment je peux, avec l'expérience ensuite, le confirmer. Donc, quel pourrait être, à quelque niveau que ce soit, dans la pratique scientifique, le risque que ferait courir l'imagination ? Pour ma part, j'ai du mal à en voir un.
Oui, c'est parce que je crois, si vous voulez, qu'il y a une sorte de malentendu là, sur le terme même d'imagination. L'autre jour, nous avons eu la joie d'écouter Alain Cohn, et il nous a bien expliqué comment, en fait, quand il pense, il fait bouger des images dans son cerveau. Donc, en fait, la question n'est pas la question de l'imagination passive à laquelle je fais référence. Oui. Ce qui m'intéresse, naïvement probablement, mais c'est ce qu'il y a au-delà de l'image. C'est-à-dire que vous savez que dans les sciences qui sont les nôtres, l'image est de plus en plus importante. Et l'expérience très pratique qu'on peut en avoir, c'est que quand les images sont données, on y voit très souvent que ce qu'on avait déjà compris. C'est-à-dire que c'est assez rare de voir au-delà de l'image. Quand je parlais d'imagination, je parlais justement de cette capacité d'aller au-delà de l'image.
Oui.
Et c'est là qu'on prend un risque, parce que tant qu'on s'appuie sur une image, on ne fait jamais que décrire des choses qu'on savait probablement déjà. Hein. Mais quand on va au-delà de l'image, on fait une hypothèse sur des choses qu'on ne connaît pas véritablement.
Oui.
Et pour moi, c'est ça le rôle de l'imagination scientifique. C'est là que je la rapproche un peu d'une imagination artistique, puisque
bien sûr, oui.
Je sais que vous êtes intéressé aussi
oui.
à l'art.
Oui.
Il y a peut-être une ambiguïté sur le terme d'imagination. Pour moi, l'imagination, c'est plutôt du côté du deuxième côté que vous avez développé, c'est-à-dire la prise de risque au moment où je n'utilise pas logiquement des images, et au moment où je suis obligé de me mettre en cause comme sujet de la science.
Oui.
Et de prendre un risque existentiel, d'une certaine façon, en proposant quelque chose qui me met en danger, mais sans quoi je ne peux pas inventer quelque chose de nouveau.
Ce que montrent aujourd'hui les travaux dans les neurosciences, c'est qu'on peut trouver, on peut essayer d'épingler la manière dont nos images mentales sont reliées à des images du cerveau. Toute la question qu'il s'agit de savoir est d'abord, quelle est exactement, comment se présentent ces images du cerveau ? Est-ce que ce sont des images qui correspondent à la perception ou à quelque chose d'autre ? À une, comme vous parliez d'expérience, oui. Est-ce que ce sont plutôt des quasi-expériences, vous voyez, qui, en ce sens, ne seraient pas forcément quelque chose qui relèverait du tableau, de l'image tableau, mais beaucoup plus déjà d'une forme de description ? Vous disiez, on prend un risque parce qu'on va au-delà de l'image. Oui. C'est ce que disait déjà Abélard. Quand je vois la statue d'Achille, je vais au-delà de ce que je vois. Il y a toujours quelque chose qui va au-delà de l'image. Il y a eu toute une discussion dans les années 70 pour savoir si le modèle qu'on appelle pictorialiste des images mentales est le bon. Hein. C'était ce que Koslin défendait, ou bien Pilichine notamment avait montré que non, il fallait en permanence avoir plutôt une conception qu'on appelait descriptiviste, si vous voulez, de l'imagerie mentale, et voir que les images étaient toujours d'emblée des descriptions. Alors je pense que c'est ce qui vous conduit peut-être à dire que, en effet, de ce point de vue-là, il y a bien toujours, lorsque nous pensons, lorsqu'il y a des mouvements mentaux, quelque chose qui n'est pas à strictement parler de l'ordre de l'image tableau, mais de ce qu'on pourrait, de façon générale, appeler une représentation mentale. Et je crois que les travaux aujourd'hui en philosophie de l'esprit ou en neurosciences ont singulièrement amélioré la situation en évitant précisément tout ce fatras, si vous voulez, qu'il y avait relatif aux images tableaux, en réfléchissant beaucoup plus à la notion même de représentation mentale et en essayant de voir qu'est-ce qui, lorsque l'on imagine quelque chose, fait qu'il s'agit d'une représentation mentale qui est éventuellement, qui a un statut éventuellement différent d'une croyance, d'un désir, d'un rêve. Vous voyez, ou même d'un phénomène lié à la mémoire. Alors, il y a des travaux très, très intéressants qui essaient de cibler les différents points à partir desquels on peut dire qu'il y a en réalité des liens entre les différents états mentaux et en même temps des spécificités. Bon, une différence par exemple entre un état mental tel que imaginer et croire, c'est que lorsque vous imaginez quelque chose, en effet, vous n'attendez pas pour que votre imagination ait d'une certaine manière un certain statut, que votre esprit soit en adéquation avec le monde. Tandis que lorsque vous avez une représentation mentale qui est de l'ordre de la croyance, vous vous attendez à ce que cette croyance soit justifiée. C'est ce qui explique pourquoi, au fond, on pourrait dire que l'intelligence scientifique, elle ne se contente pas de vouloir imaginer. Elle veut que les croyances qui sont les siennes deviennent à un moment donné justifiées et donc rendent compte de la réalité des phénomènes. Et ceci me conduit donc à votre question sur l'art.
Je vous propose de la reprendre après une petite pause musicale.
Ces pharaons iconiques, monuments d'Égypte, mythiques et antiques, sur une grande place de Paris, aujourd'hui, il y a un obélisque. On essaye d'imaginer, on essaie. Et ces divines figurines dessinées sublimes et tout qui s'illumine. C'était pas de la peinture Valentine qui dégouline sur les murs de la chapelle Sixtine. On essaye d'imaginer, on essaie. Allongés comme des limaces, on rêvasse. On a de l'imagination, tout ça nous dépasse. Et si tu regardes au bout de mon doigt, on aperçoit un petit bois. Et Neptune, dis-moi comment c'est chez toi. Il paraît qu'il fait froid. On essaye d'imaginer, je me mets à la fenêtre, je regarde dans des lunettes. Je vois des gens dans des navettes toucher des planètes et tirer la queue des comètes. On essaye d'imaginer, on essaie. Allongés comme des limaces, mais tout ça nous dépasse. Allongés comme des limaces, on rêvasse. On a de l'imagination, mais tout ça, ça nous dépasse.
France Culture, Imagination, Alain Prochian.
Nous accueillons aujourd'hui Claudine Tiercelin, qui est professeure au Collège de France et titulaire de la chaire Métaphysique et Philosophie de la Connaissance. Et nous reprenons notre discussion sur le thème sur lequel je vous ai arrêté. Claudine, vous alliez nous parler un petit peu de l'art, je crois. Et puisque notre problème, c'est de voir ce qui trace un lien, mais aussi ce qui sépare. Et moi, j'y crois vraiment, ce qui sépare complètement les pratiques artistiques et les pratiques scientifiques.
Oui, je ne suis pas complètement certaine qu'il faille à ce point les opposer. Bien sûr, il faut les séparer au sens où on peut considérer que la finalité de l'art n'est peut-être pas tout à fait la même que la finalité de la science. Parce qu'au fond, la finalité de la science, c'est d'abord la connaissance. C'est ce qui explique pourquoi je disais que lorsque l'on imagine quelque chose et lorsque l'on croit quelque chose, on a affaire à deux états mentaux différents. Mais évidemment, l'objectif n'est pas forcément le même. On peut penser que ce qui intéresse peut-être plus quelqu'un qui s'engage davantage dans une démarche artistique, encore qu'on pourrait discuter. Après tout, certains artistes sont très préoccupés de la vérité, Dichtung und Wahrheit. Donc, il n'y a pas lieu forcément non plus de dire que l'art n'aurait pas une visée de connaissance. Je crois au contraire que ce serait tout à fait positiviste de considérer qu'il ne peut pas y avoir une connaissance artistique.
La lecture de certains livres nous apprend bien plus, romans, nous apprend plus parfois sur l'humain.
Bien sûr.
Que certaines sciences plus expérimentales.
Oui, mais pas forcément sur l'humain, d'ailleurs, sur un certain nombre de phénomènes qui ont trait tout simplement à ce qui est. Donc, de ce point de vue, en effet, il ne s'agit pas du tout d'opposer les deux démarches, au sens du moins de ce qu'elles pourraient apporter comme enrichissement. En revanche, c'est vrai que on peut dire peut-être aussi que la visée première de l'art, plutôt que la connaissance, c'est la compréhension ou la compréhension du monde, la compréhension des choses, là où, je répète, il me semble que la science, c'est d'abord une entreprise de connaissances qui a pour visée, en premier, la vérité.
Il y a la question d'esthétique, quand même, qui est soulevée dans les deux domaines, d'ailleurs.
Oui, vous voyez, plus on va, moins on trouve de différence dans la manière dont un savant construit des hypothèses, des modèles expérimentaux pour que son raisonnement puisse éventuellement s'engager dans telle ou telle à des expériences de pensée. On peut considérer que là aussi, sa démarche n'est pas totalement non artistique. Bon, je vois très bien ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, dans l'art, tout de même, il faut quand même pas se cacher derrière son petit doigt, un certain nombre de phénomènes qui entrent en ligne de compte, qui ont trait à ce que l'art, malgré tout, essentiellement, nous met en relation avec un univers fictionnel. Alors, il y a eu des travaux récents, justement, extrêmement intéressants, qui essaient de comprendre comment on peut essayer de faire travailler l'imagination dans le contexte de la fiction. Et essayer de voir comment, en comprenant un petit peu mieux ce qui se passe dans le cadre à la fois de l'imagination créatrice, mais aussi de ce que, par exemple, Grégory Curie appelle l'imagination récréative, on peut améliorer, au fond, nos capacités cognitives générales de simulation. Bon, et donc, là encore, au fond, la simulation, c'est aussi quelque chose qui nous est utile dans les sciences, me semble-t-il. Mais dans l'art, évidemment, pourquoi est-ce que les travaux sur la fiction, sur l'imagination dans la fiction sont intéressants? C'est parce que, je vous disais tout à l'heure, que ce qui me semble être un apport très intéressant des années, au fond, des 50 dernières années, c'est le fait qu'on a essayé de comprendre l'imagination essentiellement à partir de la notion de représentation mentale en général, et donc de voir ce qui la distinguait d'autres types de choses. Bon, par exemple, qu'est-ce qui distingue une imagination d'un désir, d'un rêve et d'une émotion aussi? Est-ce que si c'est plutôt de l'ordre d'une quasi-expérience sensorielle, est-ce qu'éventuellement, par exemple, les émotions, vous voyez, ça c'est une question sur laquelle j'avais travaillé dans le colloque du collège, est-ce que lorsque nous avons des émotions, lorsque nous appréhendons une œuvre de fiction, les émotions que nous avons sont de même nature que celles que nous pouvons avoir dans la vie lorsque nous avons affaire à des personnages ou à des phénomènes qui se passent dans la réalité. Et comment est-ce que l'imagination intervient précisément dans ce contexte? Il y a, je crois, des analyses extrêmement intéressantes qui ont été menées en association avec des artistes et puis des gens qui travaillent dans les neurosciences, des gens qui travaillent aussi sur la littérature, pour analyser de plus près les énoncés de la fiction, voir comment se joue l'imagination dans le lien entre les propositions qui se font dans un énoncé fictionnel. Pourquoi est-ce que, au fond, nous y croyons à cette histoire, bien qu'elle soit imaginée, n'est-ce pas? Et même comment nous pouvons éprouver certaines émotions dans la fiction.
Ben ça, c'est un grand classique du paradoxe du comédien. C'est-à-dire que
Exactement. Vous
allez avoir des comédiens qui miment un sentiment qu'ils n'éprouvent pas parce qu'ils ont tellement travaillé qu'ils sont tout à fait dans la technique de l'expression corporelle. Et que le type qui est dans sa chaise en face, lui, il éprouve les émotions comme si ça lui arrivait à lui personnellement.
Oui.
Je pense que Darwin, d'ailleurs, dans son livre de l'expression des sentiments chez l'homme et chez les animaux, montre bien qu'il y a quelque chose d'évolutif là, oui. de réaction émotionnelle qu'on a en face de certains traits physiques, de oui. mimiques physiques, oui. l'effroi.
Oui. Oui, oui, tout à fait.
Choses comme ça, oui.
Tout à fait. Ce qui est intéressant quand même, c'est que les travaux qui réfléchissent, qui sont partis, vous voyez, à la fois de travaux faits en littérature ou bien faits sur les émotions de façon générale, ou sur le rôle que pouvaient, enfin, les relations qu'on pouvait introduire entre l'imagination et d'autres types d'expériences comme la perception ou le rêve, ou ont permis de mieux comprendre, ça c'est des questions que vous connaissez mieux que moi, donc j'espère ne pas dire trop de bêtises, ont réussi à mieux faire comprendre justement quelle est la différence éventuellement entre l'imagination d'un être humain et l'imagination que peut avoir un animal. Vous voyez, c'est-à-dire, est-ce que ça fait intervenir le même genre de choses? Alors, tout dépend à quel endroit vous mettez le curseur, vous voyez, de l'état mental, quelle imagination. Si c'est quelque chose qui suppose, vous voyez, déjà un certain niveau conceptuel élaboré, ce qui ressort d'un certain nombre d'analyses qui ont été menées aussi, mais dans un autre contexte cette fois, vous voyez, sur ce qu'on appelle l'épistémologie des modalités, c'est-à-dire que quand vous imaginez quelque chose, vous essayez de voir si c'est concevable, si c'est possible. Et évidemment, les logiciens et les gens qui travaillent sur les modalités sont très intéressés à savoir jusqu'où nous pouvons aller, vous voyez, simplement à partir de la simple conception de quelque chose. Bon, mais si l'imagination est quelque chose qui oblige d'une certaine manière, vous voyez, à des opérations de simulation, qu'est-ce que ça engage exactement comme prise de position sur justement ce qu'on pourrait appeler l'intelligence animale? De quoi sont capables, où s'arrête, vous voyez, la frontière entre ce qui relèverait des compétences de l'animal et des compétences de l'homme? Alors, il semblerait, une des voies qui est proposée consiste à dire que, par exemple, chez les primates, certains primates, les primates ont la capacité de simuler quelque chose. Mais ils n'ont peut-être pas tout à fait, je crois que c'est quelque chose à quoi vous êtes acquis vous-même, la capacité à un moment donné, d'opérer sur le registre de ce que Curie appelle l'imagination récréative. C'est-à-dire être capable d'envisager les buts, la finalité, la capacité qu'on appelle en métacognition de lire l'esprit de son congénère de telle manière qu'il puisse anticiper ce que le congénère va faire. Vous voyez, bon.
Ben, un enfant de 4 ans a une théorie de l'esprit très supérieure à celle
exactement.
D'un chimpanzé
voilà.
adulte.
Exactement, voilà. Et là,
théorie de l'esprit qui veut dire attribuer une intention ou une pensée
exactement.
À la personne
exactement.
Ou à l'animal d'ailleurs
bien sûr,
qui est
oui.
en face de vous.
Oui.
C'est-à-dire quand je regarde un chien, je m'inquiète toujours un tout petit peu parce que je ne sais pas ce qu'il pense. Lui ne se pose pas la question essentiellement,
oui,
je
oui.
crois.
Oui,
c'est vrai. C'est... Alors là, c'est très intéressant parce que l'imagerie cérébrale au sens de l'imagerie médicale
oui,
cérébrale
oui, oui.
peut permettre de voir quelles sont les régions qui sont avec une définition assez faible, en fait, mais qui sont mises en action
oui.
dans ces cas-là. Et on voit bien qu'il y a évidemment des différences très, très grandes entre des régions du cortex le plus frontal chez Sapiens et chez un chimpanzé, qui
oui.
est notre cousin le plus proche. Cela étant dit, darwinien comme vous l'êtes et comme oui. moi aussi, puisque
oui.
nous sommes darwiniens et matérialistes, je le suppose, oui. Il y a forcément quelque chose de commun et de partagé entre
bien
toutes
sûr.
Les espèces,
voilà.
et évidemment entre les deux espèces qui sont oui. les plus proches,
oui.
les chimpanzés, pour faire bref, parce que bon, c'est pas vraiment des... Il y a deux espèces
oui.
de chimpanzés que vous avez, et puis les humains.
Oui, oui.
Oui, ils n'ont pas une théorie de l'esprit. Ils en ont une,
voilà.
mais si les singes pouvaient parler, on ne sait pas très bien ce qu'ils nous diraient. Voilà,
voilà,
c'est un peu comme les lions de votre ami Wittgenstein.
Oui, oui. c'est ça.
La finalité de l'art. Qu'est-ce qu'on peut imaginer appeler une finalité de l'art? C'est-à-dire que la distinction, moi, que je ferais, c'est-à-dire que quand on parle art-science, par exemple, on fait souvent référence à l'esthétique, par exemple, d'une photo scientifique ou à la beauté d'une image et moins à l'esthétique d'une démonstration qui correspond plus à ce que je penserais comme l'esthétique de la science, c'est-à-dire une belle équation ou une belle démonstration. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. En général, c'est plus elle est simple et plus elle est belle hein, pour les scientifiques. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec une beauté artistique dont nous ne savons pas très bien, parce que la finalité de l'art, c'est quand même de produire des artefacts esthétiques, d'une certaine façon, ou du moins qui nous émeuvent, puisqu'on revient à cette histoire de provoquer une émotion chez un sapiens. Hein. Mm-hmm. C'est pas tout à fait la même chose, quand même. Comment est-ce qu'on peut distinguer les deux choses, pour vous ?
Oh, je ne sais pas, je me sens tellement incompétente en art que je pense que ce sont plutôt les artistes qui en parlent le mieux. Je suis toujours très gênée.
On va avoir deux artistes voilà. Dans les deux prochaines séances. Donc ils en parleront, mais ce sont des artistes qui justement s'intéressent à la science. C'est pour ça qu'ils ont accepté de venir ici dans cette série. Ce que je voulais dire, c'est que la question du sujet se pose quand même, derrière ça, parce que les scientifiques ont quand même, et on fera peut-être une petite pause après, mais on reprendra là-dessus, mais les scientifiques ont quand même dans l'idée, même s'il y a des sujets de la science, de produire des concepts qui, même s'ils sont évolutifs, parce que c'est pas de la religion, hein, les théories scientifiques évoluent bien entendu, ont un rapport avec une vérité, hein, pour lâcher le mot comme ça. Même si ce sont des vérités relatives, sans relativisme, parce que les théories évoluent. Sinon, ce seraient des dogmes religieux. Mmh. Donc le sujet doit être évacué. À un certain niveau, à un moment, il faut évacuer le sujet, parce que c'est parce que vous ou moi qui provoquons une théorie scientifique, elle doit être la même, d'accord ? Même si le chemin qui conduit peut être un tout petit peu différent. Pour les artistes, le sujet est plus fort, probablement, encore qu'aujourd'hui, on peut imaginer des robots artistes. Et c'est ce dont je discuterai avec M. Madlener un peu plus tard. Donc, j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu sur le plan philosophique, puisque c'est votre métier, comment vous voyez cette distinction ou cette contradiction ou cette difficulté, en fait, qui est une vraie difficulté pour moi, d'un point de vue philosophique qui est le vôtre. Mais on a un peu de temps pour une petite pause musicale, peut-être.
France Culture, imagination, à Alain Prochian.
Avec Madame Claudine Tiercelin, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Métaphysique et philosophie de la connaissance, et avec qui nous avons commencé cette discussion sur l'art, la science, l'imagination, et images et imaginaires. Et en fait, nous faisons cette distinction entre les images, bien entendu, et l'imagination, et la manipulation des images, et le travail de l'imagination dans la production des œuvres scientifiques et artistiques. Et donc, là, je pense qu'on peut reprendre, chère Claudine Tiercelin, sur la question de l'art sur laquelle on s'était arrêté.
Alors, il me semble que la différence que l'on tente à faire, bon, nous en avons parlé un petit peu au début, déjà, entre l'art et la science, bien entendu, elle est tout à fait importante, mais une fois encore, je pense que elle réside moins dans peut-être le type de représentation mentale que l'on doit mettre en œuvre pour parvenir à réaliser ce qu'on fait, que dans les objectifs qui sont propres à l'art et à la science. Mais même sur ce plan-là, il me semble, vous disiez, on doit à un moment donné, dans l'art, dire que ce qui compte, c'est quand même l'artiste. C'est celui qui, par son expérience, va faire que son œuvre, c'est son œuvre à lui, là où on attend, au fond, de la science qu'elle vise l'objectivité. Mais à ça, on pourrait malgré tout objecter que plusieurs choses. Premièrement, on pourrait faire valoir que même si, bien entendu, l'art ne peut pas se distinguer de l'artiste et donc de l'expérience, l'art est quand même ce qui permet de faire que l'on dépasse à un moment donné le niveau même de l'expérience pour élaborer une œuvre. Donc, il y a évidemment, on ne va pas faire tout un cours là-dessus, mais enfin, toute la question est de savoir aussi qu'est-ce qui est important pour l'artiste ? Est-ce que ce qui compte, c'est au fond de faire passer son expérience, que très souvent d'ailleurs il décrit, il a du mal à décrire comme une forme d'expérience parfois mystique ou ineffable, qui ne s'est pas exprimé ? Ou est-ce que c'est finalement ce qu'il vise, son œuvre ? Et si c'est son œuvre qu'il a en tête, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette œuvre, de toute façon, elle transcende l'expérience de l'artiste parce qu'elle a certaines propriétés objectives ? On peut considérer qu'il y a du beau, qu'il y a des propriétés esthétiques d'une œuvre qui ne se réduisent pas simplement à ce que l'artiste a fait. Et ce pourquoi, du reste, même quand l'artiste n'est plus là, l'œuvre reste exactement comme quand Pythagore n'est plus là, le théorème de mathématiques reste là. Parce qu'il est une œuvre de la pensée. La deuxième objection qu'on pourrait faire aussi à une conception qui serait un peu, au fond, trop subjectiviste de l'art ou trop expérientialiste de l'art, c'est qu'on on présente souvent aussi la démarche artistique elle-même comme relevant précisément de quelque chose qui est une forme de connaissance pratique, mais un peu mal maîtrisée, d'une forme de bricolage, là où on le sait très bien. L'artiste, quand il travaille, j'avais beaucoup insisté là-dessus dans le colloque sur la fabrique de la peinture, et évidemment, il a besoin d'une toile, il a besoin de gestes précis, de techniques, il a besoin de tout l'environnement de l'atelier, exactement comme le savant a besoin de ses collaborateurs, d'ailleurs. Très souvent, il ne travaille pas tout seul, souvent l'artiste. Donc l'idée de l'artiste comme uniquement le type inspiré qui, au fond, n'arriverait jamais à parvenir à une œuvre qui transcendrait cette expérience, là aussi, peut-être qu'il conviendrait de revenir un petit peu sur cette manière de voir les choses.
On parle beaucoup de peinture ou même de musique, et quand nous aurons Franck Madlener qui va nous parler de la techné, parce qu'à dire CAM, c'est vraiment une machine à faire, mais avec des ingénieurs, avec des scientifiques, au point même qu'on peut imaginer qu'il va nous produire des musiques qui n'auront plus besoin d'individus, au sens comme vous êtes individu ou comme j'en suis un. Peut-être que pour la littérature, c'est un peu différent, parce que la techné est sans doute moins importante. Et pourtant, ce sont des œuvres d'art, malgré tout. Baudelaire, par exemple.
Oui, mais là encore, on pourrait objecter que certains écrivains avaient vraiment considéré que leur roman avait une fonction éducative première et que l'expression même de la littérature avait une valeur de connaissance. Donc, tout le monde n'a pas réagi comme cela, mais il y a quand même, d'ailleurs, la frontière, par exemple, au XVIIIe siècle, entre les gens qui écrivent de la littérature, nous avons une grande tradition dans la philosophie des Lumières, des philosophes qui sont en même temps de grands écrivains, par exemple, bon, et qui considéraient qu'ils pouvaient faire passer leurs idées et donc avoir un impact même sur la réalité objective par la manière même dont ils écrivaient, non seulement le contrat social, par exemple, mais les rêveries du promeneur solitaire.
Oui. Bon, non, c'était par rapport à la techné là, que je réagissais. Je suis absolument convaincu que la littérature est une voie d'accès à la compréhension du monde, différente de celle des scientifiques, à la connaissance, mais une voie... Par exemple, quand on a lu La recherche du temps perdu, on a compris des choses sur les phénomènes sociaux et même psychologie humaine qui est de façon assez forte.
Et dans le domaine de l'éthique, ça me paraît assez clair qu'il vaut mieux lire un bon roman que de suivre un cours de philosophie morale.
D'accord. J'ai eu peur que vous donniez des noms tout d'un coup, donc
pas avoir un procès. Je suis totalement opposé au rationalisme moral. Je pense que l'homme de la rue est bien mieux placé que n'importe quel philosophe moral dans ce domaine. Et en tout cas, la littérature nous aide beaucoup mieux.
Et ça nous ramène alors à une discussion que j'ai eue avec notre collègue Menger de la question de la place de la création artistique dans la société, et de la contradiction entre la nécessaire liberté du sujet de l'art et en même temps les contraintes sociétales qui lui sont imposées. Et peut-être que vous pourriez reprendre cet exemple à propos des peintres religieux, par exemple. C'est-à-dire que la peinture religieuse, qui nécessite évidemment de faire des peintures qui soient acceptables, qui étaient plus libres, évidemment, avant la réforme ou la contre-réforme, mais qui donnaient plus de place à des exubérances. Mais il reste qu'il y a quand même un message d'insertion sociale qui laisse moins de liberté, je dirais, à l'artiste. Et comment est-ce que le sujet peut apparaître dans cet espace un peu contraint? On a ça dans la société contemporaine. Hein.
Il me semble que ça n'est pas vraiment propre à l'art. Je dirais que de toute façon, toute pensée est soumise à un certain nombre de contraintes. Simplement, il faut essayer de les surmonter, de les transcender. Il me semble que dans l'art, d'après ce que je crois comprendre, je pense que c'est là-dessus aussi que Menger revenait sans doute, c'est que on a sans doute l'impression, en effet, dans ce milieu-là, que la création est tellement prise dans le réseau des commissaires, des commandes, des mécènes, des galeries, etc., qu'elle a du mal, au fond, à surgir. Il ne s'agit pas de nier cela, et je crois que c'est un phénomène auquel nous devons être d'ailleurs très très attentifs. Mais ça n'est pas forcément le fait que... Je crois que c'est une question un petit peu différente de celle de savoir si l'art a pu être gêné, par exemple, par le fait que certains de ses sujets portaient sur certains thèmes ou étaient le fait de certaines commandes. Je pense qu'un grand artiste, quelles que soient, au fond, les contraintes qui sont les siennes sur le plan du sujet sur lequel il doit travailler, est capable de transcender. Au fond, il y a un certain nombre de grandes œuvres d'art qui étaient des œuvres de commande ou qui avaient une vocation religieuse ou pédagogique et qui n'en sont pas moins de grandes œuvres, donc qui ont réussi, en tout cas celle qui reste, à transcender ça par justement.
Ce qui reste, c'est parce que, et c'est une question naïve, c'est une question que je me pose, c'est pas du tout. C'est parce que ça touche à un universel, et cet universel pour vous, il est inscrit dans notre structure mentale ou même neurologique, ou est-ce que comment est-ce qu'on peut définir le beau, justement, philosophiquement ?
Oh, alors, bon, on ne va pas se lancer dans un grand cours pour savoir si c'est Platon, Hegel, Kant qui a raison là-dessus. Mais enfin, vous savez bien que, en effet, toute la question de savoir si le beau est une notion qui peut avoir une valeur universelle a été extrêmement contestée. Je vais dire les choses très rapidement et très brutalement. Il me semble, en effet, qu'il y a non seulement un certain nombre de valeurs objectives parmi lesquelles on peut peut-être donner un certain sens à quelque chose comme le vrai, le bien, le beau, mais que même si on considère que réfléchir sur l'art, c'est réfléchir non pas du tout au domaine du beau ou de l'art, mais au domaine de l'esthétique, c'est-à-dire donc à ce qui relève davantage de la sensibilité et du goût, il me semble qu'on peut trouver aussi certains critères objectifs du goût. Et que ces critères objectifs du goût ne sont pas uniquement ceux qui sont déterminés par la société, par le sujet que l'on traite, par l'insertion dans telle ou telle époque, etc.
Voilà. Pour le goût, c'est-à-dire qu'on peut... Je crois qu'il est assez admis aujourd'hui que le gras et le sucré... pour des raisons évolutives, c'est-à-dire qu'il a fallu accumuler des réserves pour que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs puissent aller faire des dizaines, voire des quarantaines, on peut courir 40 kilomètres, en gros, comme ça, évidemment, pour aller chercher la nourriture. C'est sur le plan de le métabolisme est une force sélective très très forte dans l'évolution des humains en particulier. Donc là, on peut imaginer que pour des raisons évolutives, dans nos gènes, comme il peut y avoir des règles morales de base qui permettent la vie en société, parce qu'il n'y aurait pas d'humains sans vie en société au départ, des micro-sociétés, donc des règles de bien qui seraient liées à des choses comme ça. Donc on peut imaginer quelques règles de base qui ont permis la survie de l'espèce. Une espèce dont on doit rappeler qu'elle est infiniment fragile, en particulier à la naissance. Imaginez ces 10 000 sapiens qui naissent grands comme ça et qui sont tellement appétissants quand on est un tigre ou un léopard dans le coin. Donc, il a fallu évidemment des règles extrêmement, probablement innées, qui sont des bases génétiques et donc cérébrales, de comportements moraux peut-être, puis aussi de comportements gustatifs. Oui. Mais à partir de là, ça a quand même pas mal dérivé en fonction des histoires sociales ou des histoires.
Oui, bien
donc,
sûr.
Et donc, quand un artiste produit une œuvre et qu'on dit c'est beau, essentiellement beau, c'est-à-dire que c'est beau indépendamment de tout critère historique, géographique ou sociétal, ça veut dire quoi? Alors, pour les sciences, le vrai, c'est plus simple d'une certaine façon. Je prends un caillou, il tombe, bon, voilà. Pour le beau, c'est peut-être plus dur, non?
Pourquoi faudrait-il penser que c'est plus dur, finalement?
Non, je vous pose la question.
J'aurais tendance à dire que c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, à partir du moment où on est toujours en mesure de... Je crois que c'est Marx qui a écrit des choses là-dessus. d'admirer une œuvre de l'Antiquité alors que nous ne sommes plus dans cette époque et à dire qu'on la trouve belle, il y a peut-être quelque chose... alors, je ne sais pas.
Mais je parle des œuvres contemporaines, par exemple. Dans une œuvre contemporaine qui apparaît et qui est laide pendant un certain temps...
Pour qui?
Pour une majorité de gens, et tout d'un coup devient belle. Une fois qu'elle était assimilée...
Mais pour qui qui dit qu'elle est belle? Qui dit qu'elle est... Comment est-ce que, justement, vous allez déterminer, sinon par, en effet, un examen des différents critères esthétiques, si l'individu qui dit que c'est beau et qui, le lendemain, décide que c'est laid... Non, on est bien obligé, à un certain moment, en effet, d'essayer d'avoir quelques canons, quelques critères de ce qui satisfait, en effet, à l'art. Je crois que c'est sans doute plus difficile à établir Encore que je ne suis pas sûre que des artistes considéreraient que c'est plus difficile à établir. Bon, je parle en apesanteur, hein, je n'ai pas suffisamment de compétences là-dessus. Mais a priori, je ne vois pas pourquoi ce serait plus difficile d'élaborer un certain nombre de critères objectifs de la beauté que de la vérité.
Ça, voilà une proposition intéressante. Ce serait intéressant de...
Sans donner dans le platonisme.
Le seul critère objectif que je verrais, ce serait probablement, par exemple, imagerie cérébrale, de voir le plaisir que ça peut provoquer chez le spectateur ou chez celui qui crée.
Oui, mais alors là, pardonnez-moi, mais enfin, vous rencontreriez quand même pas mal de difficultés. D'abord, vous supposeriez que est beau quelque chose qui fait plaisir. Donc, quelqu'un vous dirait, mais comment l'art, c'est justement pas forcément ce qui fait plaisir. Le plaisir peut être un obstacle, vous direz un puriste, à l'appréciation de ce qui est beau. Donc, là, vous liez justement deux choses qui vont peut-être pas forcément de pair. On pourrait penser que ce qui est beau, c'est parce que, en un sens, ça transcende précisément ça. Et la deuxième difficulté que je verrais, c'est que vous faites un peu confiance en même temps à la neuroimagerie.
Très peu. Justement, j'essaie de vous pousser pour voir.
Bon, j'ai un petit peu écrit là-dessus, je me souviens, une année au colloque de rentrée, j'avais un petit peu répondu à Denis Le Billan en disant que j'avais quelques petites réserves sur les interprétations qu'on pouvait faire de la fameuse révolution de la neuroimagerie, parce que le problème des neuroimages, c'est celui de toutes les images que nous avons rapidement évoquées au début de l'entretien, savoir que une image en tant que telle, elle ne vous dit rien si vous n'avez pas la règle de traduction et d'interprétation. Si vous voyez l'image d'un petit bonhomme qui est sur une pente, si vous ne savez pas s'il monte ou s'il descend, votre image, elle ne vous dira rien. N'est-ce pas?
Bon, donc. Non, vous connaissez mes réserves sur la neuroimagerie, de toute façon.
Non, mais il faut que ce soit tout de même des réserves sensées. Dieu sait, on ne va tout de même pas être anti-scientiste dans cette émission et dire qu'il ne faut pas aller se précipiter, faire un scanner lorsque l'on a une attaque cérébrale.
Donc, non, non.
Voilà. Non, mais simplement, c'est vrai qu'il faut être en même temps circonspect.
On parlait de cognition, on parlait pas de médecine. C'est-à-dire que ce que les images, et c'est un petit peu à ça que j'aimerais vous pousser. Qu'est-ce que les images qu'on peut voir dans un cerveau peuvent nous apprendre dans le domaine de la cognition si on n'a pas en amont déjà une théorie de la cognition? C'est-à-dire que quand on discute avec nos collègues cogniticiens, en fait, les images sont le résultat d'un calcul qui est lui-même le résultat d'une théorie du cerveau. C'est-à-dire que si on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne peut pas interpréter même l'image qu'on peut voir. Oui. Ça n'a rien à voir avec la coloration des réseaux de neurones.
Non.
Donc, il faut être critique, mais en même temps, évidemment, on ne peut pas dire que tout ça n'existe pas. Tout ça est très important pour comprendre comment fonctionne un cerveau. Et d'ailleurs, les différences qu'on voit entre les sapiens et les chimpanzés, pour beaucoup, relève d'analyse d'images, et en particulier, on a fait l'imagerie mentale d'un chimpanzé c'était un macaque, qui regardait Le Bon, la Brute et le Truand, le même film qu'un sapiens, et regardait quelles étaient les régions du cerveau qui étaient allumées aux mêmes scènes de cavaliers sur leurs chevaux. C'est très intéressant. Le cortex frontal est beaucoup plus excité chez le singe que chez le sapiens. Donc, pour des raisons qu'il faudra m'expliquer. Peut-être que le singe se demande vraiment ce qui se passe. Donc, écoutez, j'étais très content de vous entendre, véritablement. Est-ce que vous pourriez donner juste une conclusion, si vous pouviez, sur cette question qui restait pour moi un peu sans réponse, qui est celle de l'importance dans des découvertes vraiment fondamentales du sujet. Par exemple, je me suis souvent posé la question, et je l'ai posée à Edith, et j'ai eu une réponse que je ne voudrais pas, Edith Heard. Si j'avais toutes les connaissances qu'avait Darwin, et que je mettais dans un ordinateur capable d'analyser logiquement toutes les connaissances qu'a Darwin, est-ce que je ressors avec une théorie de l'évolution de la type que celle que Darwin nous a proposée, ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique au fait que c'est Darwin qui était là et pas un autre.
Alors là, moi, il me semble que le propre de la pensée, précisément, c'est à un moment donné de transcender ce qui relève de la simple représentation mentale. Et ce n'est pas parce que Pythagore a découvert le théorème, ce pourquoi il a bien dû à un moment donné avoir une représentation mentale, que le théorème de Pythagore, maintenant, est accessible à tous. Pythagore, on l'a oublié, ça fait belle lurette. Donc il faut distinguer, comme disait très fermement Frege, ce qui est de l'ordre de la pensée et ce qui est de l'ordre des représentations mentales subjectives. Bien entendu, nous avons besoin, pour penser, de faire ce travail de la représentation mentale, avec toute sa richesse, toute sa créativité, sa récréativité d'ailleurs aussi, comme je l'ai dit, sa capacité de simulation, d'invention, mais aussi avec tout ce que ça comporte comme inventivité dans la stricte logique elle-même, vous voyez. Mais évidemment, ce qui est important, me semble-t-il, c'est que une fois que la chose a été faite, elle résiste.
Avec la différence que le théorème de Pythagore ne peut plus évoluer, alors que la théorie de l'évolution est évolutive elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais terminée. Et donc, c'est des choses un tout petit peu d'ordre différent qu'une théorie scientifique qui est en permanence remaniement et qui même peut subir des révolutions, comme vous le savez bien,
oui.
Et le théorème de Pythagore, non ?
Oui, moi ça nous entraînerait loin dans la question de savoir quelle est la différence entre des vérités d'ordre mathématique et des vérités propres aux sciences de la nature, et dans lesquelles il faudrait en plus distinguer les vérités physiques et les vérités de la biologie, qui sont pas non plus de même nature. Certaines sont la science fondamentale, d'autres les sciences spéciales, comme vous savez. Bien entendu qu'il y a des différences. Mais je ne suis pas sûre que la question même de savoir si elles évoluent est la chose fondamentale. Que Darwin, que l'on découvre de nouvelles choses après le darwinisme, bien entendu, mais je pense qu'il y a un fond dans les vérités qu'a découvert Darwin qui ne pourra pas être dépassé. Il y a des choses qui sont là et qui resteront. Et de ce point de vue, de même, je dirais que en ce qui concerne les vérités mathématiques, ça n'est pas parce que, en effet, le théorème de Pythagore est là. Après tout, il y a eu des géométries non euclidiennes, n'est-ce pas ? Donc les mathématiques aussi, elles ont une histoire.
Très bien. Écoutez, sur cette magnifique conclusion, et au fond cet accord que nous rencontrons à chaque fois que nous discutons ensemble, je vous remercie encore une fois énormément d'être venu vous livrer à ce jeu. Et nous allons accueillir la semaine prochaine le premier artiste de la série, de cette série Imagination, puisque nous avons eu des sociologues, une philosophe, une historienne de l'art, et puis des scientifiques. Je vous remercie beaucoup, Claudine Tiercelin.
Merci à vous, Alain.
Imagination par Alain Prochian. Prise de son, Éric Boisset. Réalisation, Christine Robert. Assistée de Delphine Derbier, stagiaire.